Voilà. Donc, je me sens très honoré de pouvoir partager avec vous un témoignage en réalité. Ce ne sera pas un exposé scientifique, mais davantage un témoignage. J'ai appuyé. J'ai appuyé, tu peux vérifier. Voilà, donc, je suis chrétien depuis 1900, on va dire, bon, j'ai été baptisé en 1987, j'avais un héritage chrétien auparavant, mais pendant l'essentiel de ma vie chrétienne, le seul lien qu'il pouvait y avoir entre l'alimentation et ma vie de foi, c'était la reconnaissance. C'est-à-dire que à chaque fois que je mange, je suis reconnaissant à Dieu pour tous les hommes qui ont travaillé, les hommes et les femmes qui ont travaillé pour la nourriture, pour la création qui permet, enfin pour la vie, quoi. Et c'était à peu près tout. J'avais expérimenté le jeûne il y a longtemps, longtemps, dans l'église où j'ai été baptisé à Tours, avec le pasteur Léo de Lepère. Et c'est tout. Voilà. Et j'ai vécu ma vie de chrétien avec juste ce rapport entre nourriture et foi, la reconnaissance. Or, il se trouve que dans la Bible, il y a davantage que ça. Il y a davantage que ça. Dans la Bible, la question de la nourriture est très ambivalente. C'est un gros sujet que j'ai découvert finalement assez tardivement, mais c'est un gros sujet et très ambivalent. C'est-à-dire que c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Alors, on va commencer par un certain nombre de passages de la Bible qui nous introduisent dans cette question-là. Après, il y aura davantage d'éléments scientifiques et puis on finira avec le jeûne et qu'est-ce que nous dit la Bible sur le jeûne. D'abord, on va commencer par le meilleur. Dans la Bible, assurément, la question de la nourriture et du repas, et surtout le repas partagé, c'est quelque chose de très positif. Il y a même un pasteur qui m'a dit une fois, Alain Busson, on devrait faire une théologie du repas dans la Bible. D'ailleurs, la Sainte Cène fait partie de cette théologie du repas dans la Bible. Donc, par exemple, dans le livre de Néhémie, c'est à un moment donné particulièrement béni, il leur dit, allez, mangez de bons plats, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions à celui qui n'a rien pu préparer, car ce jour-ci est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà votre force. Vous voyez, la place du repas, et notamment le repas partagé. Dans la Genèse, tout le monde connaît ce passage hein, où Abraham reçoit les anges du Seigneur et il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras, il le remet à son serviteur qui se dépêcha de le préparer pour faire un repas d'accueil à ses anges. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Et par rapport à la Sainte Cène, j'aime bien faire remarquer que dans notre liturgie de la Sainte Cène, nous redisons cette phrase à chaque fois. Hein? Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Ça, c'est pour le meilleur. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais ce n'est pas seulement pour le meilleur, la question de la nourriture dans la Bible. C'est aussi pour le pire. Et là, il y a un passage qui m'a toujours frappé. Non, ce n'est pas celui-là. Mais en tout cas, on va commencer par celui-là, dans l'épître, première épître aux Corinthiens. Paul, il dit, vous dites aussi, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Oui, cependant, Dieu détruira les uns comme les autres, mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et nous savons, hein, peut-être même dans notre vie personnelle, que la nourriture peut être un esclavage. Il y a un combat en réalité. Voilà, c'est ce passage qui m'a souvent frappé. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je suis tombé sur ce passage et j'ai trouvé étonnant que Paul associe les excès de table à des tas de choses horribles. Hein? On va faire la liste. Hein? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans la première épître de Pierre, en effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Alors voilà un passage dans l'Ancien Testament qui pour moi est très frappant. Voilà ce que dit Moïse au peuple. Non, ce que dit Dieu de dire au peuple de la part de Moïse. Quant au peuple, dis-leur, purifiez-vous pour demain, vous aurez de la viande à manger car le Seigneur a entendu vos plaintes. Vous savez que le passage au désert, c'est difficile, hein? Il y en a même qui souhaitaient repartir en Égypte, hein, tellement ce n'était pas évident. Alors le peuple se plaint. Alors quand on lit ce passage, on dit vraiment qu'est-ce que le Seigneur est bon. Merci Seigneur, il va pourvoir aux besoins du peuple, il va leur donner de la viande. Il sait que vous avez grande envie de viande, au point de prétendre que vous étiez bien en Égypte. C'est pourquoi il va vous en donner à manger. Vous n'en aurez pas seulement pour un jour ou deux, ni même pour 5, 10 ou 20. Là, on est entre deux. On peut se dire, oh, vraiment, le Seigneur, telle générosité. Puis c'est vrai qu'on aime aimer un Dieu généreux. Hein. On se dit vraiment, quelle générosité. On peut se dire, c'est vraiment formidable, quoi. Dieu pense à son peuple. Et puis, ça se termine comme ça. Vous mangerez de la viande pendant tout un mois. Jusqu'à en être dégoûté, jusqu'à ce qu'elle vous ressorte par le nez. Ce sera votre punition pour avoir rejeté le Seigneur qui demeure au milieu de vous, en vous plaignant devant lui d'être sorti d'Égypte. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la Bible, hein, déjà, dans la parole, mais le fait que ce soit de la viande, c'est vraiment, vraiment pas par hasard. Et personnellement, je vois une grande cohérence avec tout ce qui va suivre. Oui, ne pas négliger la guerre, il y a une guerre entre la chair et l'esprit. La chair, c'est notre faiblesse humaine, hein, et l'esprit. Alors, quelques illustrations encore de ce combat, de ce... C'est le fameux passage où Ésaü brade son droit d'aînesse, hein, parce qu'il veut un bon repas. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü revint de la chasse très fatigué et lui dit « Je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce potage roux. » C'est pourquoi on l'a surnommé Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit « Cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü déclara « Je vais mourir de faim. À quoi me serviront mes droits de fils aîné ?» Jacob reprit « Jure d'abord. » Alors Ésaü jura qu'il lui cédait ses droits de fils aîné et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. C'est fort, hein, quand même. La nourriture. Quand je vous dis qu'elle peut nous tenir en esclavage, moi en tout cas, c'est possible. Bon, beaucoup d'autres passages, hein, je vais raccourcir un peu. Au départ, l'homme ne mangeait pas de viande. C'est dans le livre de la Genèse. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte semence, ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante, je vous donne tout. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Il y a eu une évolution, il y a eu comme une sorte de concession de Dieu qui a autorisé à manger de la viande. Et puis alors, c'est aussi ce passage, c'est presque déjà de la diététique, hein. Toute graisse revient au Seigneur. C'est une loi immuable pour vous, d'âge en âge, où que vous habitiez, tout ce qui est graisse et tout ce qui est sang, vous n'en mangerez pas. Et puis quand on mangeait, dans la Bible, de la viande notamment, il y avait une part à Dieu, une part aux Lévites, une part aux sacrifiants, et le reste est mangé en communauté. Et enfin, la question de Daniel. qui ne voulait pas manger de viande sacrifiée aux idoles, qui a demandé l'autorisation de ne manger que du légume et de ne boire que de l'eau. Et le texte nous dit qu'il... Alors, le responsable du roi était inquiet, il disait « ils vont dépérir s'ils mangent que des légumes et de l'eau ». Et le texte nous dit qu'ils avaient meilleure mine. Voilà, ça c'était pour introduire la question de la nourriture dans la Bible. Maintenant j'en viens à mon témoignage. Là vous me voyez en pleine forme, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et si j'y fais cet exposé, c'est parce que je suis passé par un moment de ma vie où j'ai eu des soucis de santé suffisamment sérieux pour vraiment me remettre en question. D'abord la question du reflux gastrique, où je suis allé voir mon médecin et il m'a prescrit un médicament qui m'a détruit mon tube digestif, hein, toute ma flore. Les inipompes, c'est vraiment un truc que je ne recommande pas. Et puis, ça ne règle rien. Alors, j'ai eu la chance de tomber sur un livre d'un grand chirurgien parisien, Jean Habitbol, qui est spécialiste de la voix, hein, otorino, hein, et qui est chirurgien, qui s'occupe des chanteurs, des comédiens, etc. Et j'ai lu son livre, et dedans, il y a tout un chapitre sur l'hygiène de vie pour régler le problème du reflux gastrique, qui est, je ne sais pas s'il y en a qui en ont parmi vous, mais c'est une horreur. Hein. Vous avez une brûlure là absolument insupportable, vous ne savez plus quoi faire. Hein. Oui.
Et en plus, tu es enseignant.
Donc... Oui, parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'est que de perdre ma voix. Voilà. Ensuite, donc j'ai réglé mon problème de reflux gastrique, mais j'ai de nouveau eu des problèmes de santé. On va dire maintenant, c'était il y a une douzaine d'années. Et en gros, mon syndrome, c'était ça. Voilà. Et je peux vous dire que l'inquiétude grandissait. L'inquiétude grandissait, je me disais, je vais finir au ras des pâquerettes, quoi. Cerveau embrouillé dans mon métier, c'est une catastrophe. Hein. Les jambes lourdes alors que je faisais plus beaucoup de sport. Le sommeil perturbé, c'est redoutable. Hein. J'en arrivais à dormir 5-6 heures par nuit alors qu'il me faut au minimum 7-8 pour être bien, quoi. Alors, j'ai découvert, par le biais d'un conférencier qui est venu à Luxeuil, qui était à Luxeuil, qui n'y est plus, un naturopathe. Je suis allé par curiosité écouter ce qu'il dit. Et c'était très intéressant. J'avais pourtant suivi un module de diététique pendant mes études, dans les années 80, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une évolution extraordinaire. Hein. Ce que j'avais appris à 30 ans, ou 35 ans, par rapport à aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. La recherche scientifique nous fait vraiment progresser dans la connaissance. Alors, lui, il m'a imagé le corps comme un bocal. Quand vous mangez, vous agressez votre corps. Voilà. Hein? Quasiment tout le temps. Et il y a un grand scientifique russe qui a découvert, c'était au début du XXe siècle, qu'à chaque fois que nous mangeons, ça produit une réaction immunitaire. Parce qu'effectivement, la nourriture nous apporte de quoi vivre, mais pas que. Elle nous apporte aussi un tas de trucs qui agressent notre corps. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on mange, on emmagasine, on accumule dans notre corps des toxines, des déchets, des tas de choses indésirables et même nuisibles à notre corps. Alors, le Seigneur a bien fait les choses. Hein. Il a créé tout un tas d'éléments de notre corps pour évacuer tout ça. Mais il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a un seuil critique. Et que si ce qui rentre est supérieur à ce qui sort, eh bien vous remplissez votre corps comme un bocal qui se remplit jusqu'à un moment donné où le seuil critique est dépassé. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein? À un peu plus de 40 ans, j'avais dépassé mon bocal. Ça veut dire que mon capital santé, que nous avons tous différent à la naissance, ben moi, le mien, il était fait. J'avais mangé mon capital santé. Et c'est tous ces symptômes qu'on a vus tout à l'heure, tout de suite, eh bien, provenait d'une hygiène essentiellement alimentaire, alors que je pensais vivre tout à fait normalement. Et la première alerte que j'ai eue, ça je le raconte parce que c'est vraiment stupéfiant, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une douleur dans le bas du dos absolument insupportable. Je ne pouvais plus dormir sur le dos, je ne pouvais dormir que sur le côté, la position statique debout était insupportable, il fallait ou que je m'assoie ou que je m'appuie contre un mur. Et j'ai dit, cette douleur, c'est insupportable, et ça ne partait pas. Je suis allé voir un ostéopathe, parce que j'ai cru que j'avais un problème de vertèbres. Il a regardé mon dos, il m'a dit, il n'y a rien du tout. Et puis, comme il était formé à ça, heureusement pour moi, il m'a dit, expliquez-moi comment vous vivez, comment vous mangez, etc. Je lui ai expliqué comment je vivais, comment je mangeais, en bon franc-comtois, j'adore le fromage, hein, le comté, etc. Bon. Il m'a dit, monsieur, que ce n'est pas compliqué, vous allez juste arrêter viande rouge et produits laitiers pendant un mois. Alors là, c'était tellement insupportable que je l'ai fait volontiers, hein, et ce n'est pas très compliqué à faire d'ailleurs. En à peine 3 semaines, j'avais plus rien du tout. C'était disparu. La nourriture, la brûlure en bas était... En fait, c'était quoi? C'était une inflammation. Et l'inflammation, c'est un mécanisme immunitaire. Donc, j'avais accumulé, j'avais dépassé mon bocal. Voilà. Donc, réaction inflammatoire, système immunitaire affaibli. Voilà ce qui se passe. C'est une histoire de capital santé. Alors, quand on est jeune, le bocal est vide, hein, ou quasi. Hein, et c'est avec le temps, bien sûr, que tout ça évolue. Hein. Et de bocal qui se remplit plus vite qu'il ne se vide. Donc, la solution, c'est quoi? Eh bien, mettre moins de choses en termes de déchets, de toxines, etc. Réduire l'entrée et augmenter la sortie. Sauf qu'avec l'âge, la sortie, elle n'augmente pas. Hein. Nos émonctoires, ils s'essoufflent un peu avec l'âge. Hein. Notre corps vieillit. Oui, ce qui est vraiment certain, c'est que le Créateur a bien fait les choses. Voilà. Et j'ai entendu une fois dans une émission, peut-être à vérifier, mais 80% des décès, c'est dû à l'alimentation, soit directement, soit indirectement. Alors, la nature, moi je dis le Créateur, a bien fait les choses. Ses œuvres extraordinaires sont visibles. Et c'est évident, voyez-vous, eh bien, l'homme est un grand singe. Vous savez, la création, c'est toutes ces lois de la science, physique, chimie, biologie, etc. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis émerveillé. C'est pour ça que j'ai aimé les sciences naturelles. Je suis émerveillé par l'extraordinaire complexité. Enfin, moi, je suis un contemplatif de ce qu'a pu créer Dieu. Et Dieu nous a fait grands singes. On aurait pu être des grands poulets ou des grands dinosaures, je ne sais pas. Nous sommes des grands singes. Nous sommes de la même famille. Notre capital génétique est à 99% identique. Eh bien, nous devrions avoir une alimentation qui se rapproche de ce que Dieu a conçu lui-même pour nous. Alors, le naturopathe, il m'a parlé de ça. Et je lui ai dit, ouais, mais les Esquimaux, ils vivent proche de la nature. Et ils mangent beaucoup de viande, puisque dans le contexte où ils sont, ils n'ont pas tellement le choix. Hein. Et là, j'ai essayé de contredire hein, le naturopathe. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui gobe comme ça facilement. Il m'a dit, oui, les Esquimaux, oui, effectivement, ils sont proches de la nature. Espérance de vie des Esquimaux, 45 ans. Dans un cadre de vie qui est effectivement... Moi, je leur tire mon chapeau aux Esquimaux d'avoir été vivre à un endroit tellement hostile pour les hommes. Hein. C'est vrai qu'il y a des endroits plus ou moins hostiles et plus ou moins favorables pour la vie humaine hein, sur Terre. Voilà, mais bon, on n'est pas fait pour manger de la viande, en tout cas en grande quantité. J'ai fait un comparatif... notamment des reins, qui sont un des principaux éléments pour évacuer tous nos déchets. Si on compare le rein d'un carnivore et le rein de l'homme, on voit qu'on est 2 fois moins puissant. En volume, en poids, et puis notre intestin, il est 2 fois plus long. Donc, on n'est pas fait pour manger comme des carnivores. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'était la première pierre posée dans la question de la nourriture, sur le plan scientifique. Le microbiote, ça, c'est la grande découverte des 10-15 dernières années. Figurez-vous que nous ne vivons pas seuls. Nous sommes avec une symbiose de plusieurs kilos de microbes. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous portons dans notre corps, beaucoup dans le tube digestif, mais pas que, il y en a partout, les muqueuses, la peau. Nous vivons avec plusieurs kilos de bactéries invisible, à l'œil nu évidemment, hein, en permanence. Ça veut dire que quand nous ne mangeons pas que pour nous, Abdel, Jean-Daniel, Christine, nous mangeons pour une infinité d'êtres vivants qui partagent notre vie avec nous. Donc ça veut dire que la nourriture que nous ingérons doit être aussi bénéfique, pas que à nos plaisirs, hein, parce que c'est ça qui est terrible, doit être bénéfique à nos microbes. Et nos microbes, ben, tout ne leur convient pas. Et puis, il y a des choses qui leur conviennent particulièrement. Qu'est-ce qui convient particulièrement aux microbes? Ça. Et comme par hasard, c'est la base de la nourriture des grands singes. Les légumes. On a élevé des enfants aussi, nous. Nous sommes, ça c'est la principale caractéristique qui nous apparente aux grands singes, c'est que nous sommes des mangeurs de fruits en quantité importante, hein, par rapport à toutes les autres espèces animales. Voilà, ça c'est, j'ai essayé de faire en proportion ce que Dieu a prévu pour nous. J'insiste là-dessus, hein. C'est les lois de la nature, c'est Dieu qui les a créées. Nous avons besoin aussi des légumes secs, protéines végétales, qui est probablement le point faible, parce qu'on a révolutionné un peu notre alimentation, Christine et moi, depuis ce temps-là. Là, on est encore à progresser. Les fruits, notamment les fruits à coque, plus encore que les fruits secs type abricot, qui sont quand même forts en sucre. Nous avons besoin d'amidon, mais relativement peu, et on en mange beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Et puis, les matières grasses, bien sûr. Alors, privilégier les huiles végétales, notamment colza et olive, qui sont les plus intéressantes, hein, sur le plan nutritif. Et puis, voyez, on vient en dernier. Nous avons besoin de ça aussi. Je ne suis absolument pas partisan du régime vegan, hein, qui peut poser des problèmes de santé. On a un exemple, on évoquera, si vous voulez, à table dans ma famille. Voilà. Nous avons besoin de protéines animales, de même que les grands singes ont besoin de protéines animales pour compléter certains équilibres en certaines vitamines, en certains acides aminés, etc. Mais voilà, en gros, comment devrait être la proportion. Alors, c'est peut-être à peine exagéré, mais grosso modo, nous devrions manger 80% de produits végétaux et 20% de produits animaux. Voilà. C'est comme ça que Dieu a créé les choses pour nous. Et je relis ça à l'épisode de Daniel, qui avait meilleure mine, avec les légumes et l'eau. Bien, il y a aussi la question du sucre, hein. Le diabète, c'est un fléau en santé publique, hein, aujourd'hui. Il y a plein de diabétiques qui s'ignorent. C'est redoutable, hein, comme maladie, hein. Et vraiment, le côté addictif du sucre. Hein. J'ai mis de l'autre côté les drogues, mais il y a des expériences qui ont montré que le sucre a un pouvoir addictif quasi aussi fort que les drogues dures. Hein. Et peut-être même supérieur. Avec des souris de laboratoire, ou des rats, je ne sais plus, c'est une expérience en Europe du Nord, ils préféraient même le sucre à la cocaïne, au bout d'un certain nombre de jours. Un point qui est très important, et qui à mon avis devrait être beaucoup pris en compte, beaucoup plus, on sait que le barbecue peut produire des produits toxiques et cancérigènes, mais en réalité, dès que nous dépassons 100 degrés, nous commençons à produire des molécules toxiques dans la nourriture. Surtout les deux catégories, lipides et glucides. Les protéines sont beaucoup plus résistantes à la chaleur, mais lipides surtout et glucides se transforment au-delà de 100-120 degrés. Hein, ça se transforme en molécules de Maillard, du nom de chimiste qui a trouvé ça. Et donc ce sont des molécules toxiques. Alors, on a fait de la pédagogie santé publique en France par rapport au barbecue, je sais, hein, de temps en temps, on dit, voilà, le beurre, plus il devient foncé, plus il est toxique. Enfin, on sait tous ça. Mais ce n'est pas du tout pris en compte suffisamment par rapport à la nourriture quotidienne. J'insiste sur le quotidien. Parce que la réaction de Maillard est très intéressante sur le plan de l'odeur, sympa, la couleur, sympa, les gratins, etc. Sur le plan du goût, hein, ça transforme le goût. Le caramel est une pure réaction de Maillard, hein, et c'est très intéressant gastronomiquement. Donc je ne suis pas opposé, si vous voulez. Quand je vais dans un restaurant, par plaisir, je vais manger de la réaction de Maillard parce que ça fait partie, c'est un outil des chefs en gastronomie. Hein, voilà. Mais c'est la question du quotidien. Voilà, du quotidien. Parce qu'il faut bien comprendre que quand nous mangeons de la réaction de Maillard, nous ingurgitons dans notre corps des produits toxiques et qui peuvent même, pour certains, être cancérigènes. C'est pourquoi la première révolution que nous avons faite avec mon épouse, au-delà de la question de remettre davantage de légumes dans notre nourriture, c'est de nous avons jeté notre cuit sous pression là, on l'a mis à la poubelle, on l'a mis à la déchetterie, hein, et on a acheté ça, qui est un outil extraordinaire, formidable. Ça s'appelle le vitaliseur de Marie, je crois. Mais on peut en trouver dans le commerce. Mais pour avoir une très bonne qualité, il y a des sites exprès où on peut trouver cet outil-là. On peut cuire tout ce qu'on veut avec ça. On peut cuire les lentilles, on peut cuire les légumes, on peut cuire la viande, on peut cuire le poisson. Tout à la vapeur douce. Il suffit de mettre... Enfin voilà, il faut organiser un peu dedans pour que ça ne passe pas à travers les trous. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? On cuit tout avec ça. Et après, on cuisine à la poêle, à feu doux, pour aromatiser au goût que l'on veut. Voilà. Et on a fini les cuissons grillades, tout ça. Bon, on a failli faire un barbecue il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment festif, occasionnel, vous voyez, vraiment. Pour résumer, il y a des produits qui produisent beaucoup, beaucoup de toxines dans notre corps. Les protéines animales. Donc, il en faut peu. Il y a une alimentation qui peut être pauvre en fibres. Et pourquoi c'est très important la question des fibres? C'est parce que le temps de séjour dans notre tube digestif dépend de la quantité de fibres qu'il y a dans notre alimentation. Quand nous avons une alimentation pauvre en fibres, le temps de transit entre le moment où ça rentre et le moment où ça sort, 3 jours. Et plus ça va lentement dans le tube digestif, plus les toxines sont au contact de la muqueuse et plus elles peuvent provoquer des kystes, des polypes et du cancer. Alors qu'une alimentation riche en fibres, on réduit de moitié le temps de séjour dans le tube digestif. Donc nous avons un tube digestif nettoyé, hein, beaucoup moins encombré de saleté en mangeant riche en fibres. Et voyez toute cette cohérence qu'il y a entre la question de la création qui nous a fait grand singe, hein, voilà, le créateur nous a fait grand singe, il aurait pu faire nous faire petit lapin, on est grand singe. Et puis ça, c'est encore une grande découverte en nutrition, et vous allez, et ça complète la cohérence du sujet, c'est la question de l'équilibre acido-basique. Hein. Voilà, dans les années 80, jamais j'ai entendu parler de ça. Et puis aujourd'hui, c'est un sujet à la mode en santé par rapport à l'alimentation. Nous avons besoin d'avoir un pH très stable, un peu au-dessus de 7. Mais il se trouve qu'il y a des aliments qui sont très acidifiants pour notre corps. Ces aliments très acidifiants, je vous le donne en 1000, viande, poisson, œufs, fromage, enfin toutes les protéines animales et même aussi les céréales. Voilà. Donc, si on mange beaucoup de ces produits-là, nous acidifions notre corps. Et notre corps, il va avoir un souci pour rééquilibrer, pour tamponner, on dit en chimie, hein, réaction acide-base, pour tamponner ça, il va falloir qu'il fasse quoi? Alors, on peut réduire notre acidité par la respiration, hein, on peut réduire l'acidité par l'urine, hein, qui évacue beaucoup d'acide, acide urique, par exemple, ça a donné le nom de l'urine, et on peut évacuer aussi en prenant des minéraux de notre squelette qui vont être en réaction acido-basique, notamment phosphore-calcium. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup d'ostéoporose dans les pays qui mangent beaucoup de protéines animales. Alors qu'il y a des peuples sur Terre, notamment en Asie, qui mangent très peu de protéines animales, pas de laitage, et qui n'ont aucun problème d'ostéoporose. C'est pour ça que quand on nous dit manger du fromage pour avoir un bon squelette, c'est faux. Et je suis dans la production laitière depuis toujours. Je connais bien le sujet. Et non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fromage va acidifier votre corps et ne va pas améliorer votre squelette. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de fromage. Hein. Moi, j'en mange presque tous les jours, contrairement à la viande. Mais voilà. Alors, il y a des aliments qui sont plutôt neutres, hein, qui ne sont pas spécialement acidifiants. Et puis, vous avez des aliments qui sont basifiants, c'est-à-dire qui vont évacuer... Parce que l'acidité dans notre corps, c'est destructeur. Hein. C'est fatigue chronique, c'est mal-être, c'est destructeur l'acidité. Hein. Et donc, vous voyez, les légumes, ils sont là pour évacuer l'acidité de ces produits-là. Donc, manger beaucoup de légumes, peu de protéines animales, vous voyez, vraiment, il y a une cohérence, moi, que je trouve extraordinaire. Alors, j'aime bien faire référence en passant à Otto Warburg. Vous savez que Hitler était hypochondriaque. Hitler avait toujours peur de la maladie, et notamment du cancer. Et il y a un juif qui a été réchappé hein, de la main de fer du nazisme, eh bien, c'est Otto Warburg, médecin cancérologue, prix Nobel de médecine en 1931. C'était le juif d'Hitler. Lui, il a échappé à Auschwitz parce que Hitler le voulait près de lui tellement il avait peur d'être malade. Eh bien, figurez-vous que Otto Warburg avait déjà découvert dans les années 1930, que les cellules cancéreuses adoraient le milieu acide. L'acidité ne va pas déclencher le cancer, mais pour quelqu'un qui a un cancer, s'il a une nourriture très acidifiante, alors là, ça va l'enterrer un peu plus. Et aujourd'hui, les cancérologues utilisent les travaux d'Otto Warburg pour accompagner le traitement des cancéreux avec une alimentation adaptée, hein, qui permette de réduire l'acidité du corps autant que possible. Maintenant, il y a l'hygiène. Nous n'avons pas été créés pour être inactifs. L'inaction, on dit la sédentarité, quand on parle de ça en santé publique, eh bien, c'est très mauvais pour le corps. Et moi, j'ai inventé une formule que je dis à mes élèves, parce que j'ai fait de la biologie, et j'en fais encore, de la biologie humaine. J'aurais dit, le corps, c'est l'inverse des piles. Il ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà, donc, quand on n'est pas sportif, et on a le droit de ne pas être sportif, il y a ça au minimum, hein, au minimum. Au moins 3 fois par jour, 30-40 minutes, 3 fois par jour, c'est vraiment le minimum que notre corps devrait... Comment ? Par semaine ? Oui, oui, par semaine, excuse-moi. Par semaine. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais la Bible, qu'est-ce qu'elle pourrait dire là-dessus ? Alors, écoutez, moi, je trouve que la question de la santé, elle est présente dans la Bible. Hein. La maladie, la guérison de Dieu, etc. Enfin, la question de la maladie est très présente dans la Bible. Et Timothée, l'enfant spirituel de l'apôtre Paul, avait des problèmes de santé. Et Paul lui donne quelques recommandations alimentaires, notamment une boisson fermentée, pour améliorer un petit peu, hein, vous connaissez le passage. Et puis alors, Timothée a dû lui poser la question, « Oui, mais alors le sport, est-ce que ça peut m'être utile ?» Il faut savoir qu'à l'époque, là, Timothée, Paul, les gens, ils avaient 10 fois plus d'activité physique que nous. Déjà en termes de marche. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film Jésus, le dernier qui est sorti. On le voit, il passait des journées à marcher pour aller d'un endroit à l'autre. Et Paul était un artisan, fabricant de tentes. Et à l'époque, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo. Hein. Les gens faisaient beaucoup de marches. Donc dans un contexte où il n'y avait pas les problèmes de sédentarité d'aujourd'hui, Paul ne lui dit pas le sport c'est rien du tout, on s'en fiche. Il lui dit c'est utile à peu de choses. Mais moi, je transpose aujourd'hui, Paul dirait mais prenez soin de votre corps, faites de la marche, faites bouger votre corps. Vous voyez, hein, c'est une transposition de 2000 ans. Bon, la question des compléments alimentaires... Ayant longuement réfléchi à cela, je pense qu'il peut y avoir quelques compléments alimentaires qui peuvent être éventuellement utiles, même si on a une bonne hygiène alimentaire. Le magnésium, la vitamine C, la vitamine D3. Alors là, c'est dans les questions d'infection. Hein. On sait que le zinc joue un rôle très important dans le système immunitaire. Bon, voilà. Moi, celui où, laquelle j'insiste énormément, c'est celle-là. Et je vais vous donner mon témoignage. Dans cette période où j'étais très mal, fatigue chronique, etc. J'avais un goût de métal dans la bouche. J'étais inquiet pour le mercure de mes plombages, etc. Enfin, bref, j'étais vraiment pas en bonne santé. Nous avons, cet été-là, été au Grand Bornand en famille et nous avons fait une semaine au mois d'août de randonnée au soleil au Grand Bornand. Donc, fin d'été, Grand Bornand, randonnée, mais j'étais toujours mal. Hein. Je rentre, je vais voir mon médecin. Et je vais lui demander de faire un bilan sanguin pour voir, voilà. Eh bien, figurez-vous que j'étais en subcarence de vitamine D. Donc, je vous le dis, 80% de la population française, à mon avis, est en subcarence de vitamine D. Alors, les pays d'Europe du Nord, le Canada, eux, ont beaucoup évolué là-dessus parce qu'ils sont plus concernés que nous par ça. Mais nous avons peu de vitamine D dans notre alimentation. Et puis le soleil, ben ma foi, on n'est pas forcément si souvent dehors à vraiment être au soleil, quoi. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais il ne faut pas oublier le plaisir de la table. Hein. Nous ne devons pas tomber dans une austérité abominable, parce que je vais vous dire, si la nourriture n'est pas un plaisir, elle ne va pas pouvoir bien nous profiter non plus. Hein? Donc il faut garder, Dieu nous a fait gourmands. Il nous a fait gourmands, non? Hein? C'est certainement une raison. Hein? Peut-être pour nous donner de la force à combattre, bon voilà, je ne sais pas, mais pour la nourriture, il faut respecter aussi ça. Hein? Donc je n'invite personne à tomber dans une austérité morbide par rapport à la nourriture. Il faut se faire plaisir, hein? Mais il faut faire attention à ce que le quotidien soit respecté en termes d'hygiène. Hein? Voilà. Nous, on cherche à manger quelque chose qui nous fait plaisir, mais voilà. Et puis, il peut y avoir l'exceptionnel, bien sûr, hein, un repas de fête, voilà. Bon. Voilà, on va terminer avec le jeûne, j'espère pas trop dépasser. Le jeûne. Je vous ai dit, l'essentiel de ma vie chrétienne, je l'ai vécu sans jeûner. Aucun intérêt pour ce sujet. Et puis, quand on en parle avec des frères et sœurs chrétiens, souvent, ils disent, non, ben, Jésus était pas, nous a pas forcément parlé de ça, et puis, voilà... On associe souvent le jeûne à un rituel, un peu une religiosité, vous voyez. Bon. Moi, je me suis quand même intéressé au sujet. En premier lieu, pas pour des questions spirituelles, pour des questions de santé. Hein? Mais sur le plan spirituel, la Bible, il y a un lien entre le jeûne et la repentance. On a l'exemple de Daniel. Daniel cherche à Dieu en priant, en suppliant et en jeûnant, revêtu du sac et de la cendre. Bon, ça doit nous parler. Le témoignage de Daniel, il est extraordinaire. Hein? C'est un prophète qui a un témoignage vraiment absolument extraordinaire pour moi. Si lui ressentait le besoin de prier, de jeûner, ça doit nous parler. Excusez-moi. D'une manière ou d'une autre, hein? C'est aussi pour apprendre à maîtriser son corps. Alors peut-être ce passage-là n'est pas hyper explicite. Moi, je me suis appuyé sur John Stott. Hein, tout le monde connaît un peu le théologien John Stott. Hein, c'est un peu une référence dans le monde évangélique. L'apôtre Paul disait « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul est quelqu'un qui vivait avec une discipline par rapport à son corps. Et moi, il ne le dit pas explicitement, mais je suis certain que là-dedans, il y a la question de la nourriture. Parce que de toute façon, dans le judaïsme, la question du jeûne se pose. Hein? Elle est dans les textes. Hein? Et puis, le jeûne, c'est aussi pour partager avec les plus démunis. Et ça, c'est ce fameux passage du prophète Ésaïe, hein, que nous connaissons bien, je pense, qui est un très très beau passage d'ailleurs. Hein? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. Et vous allez voir pourquoi je mets ce passage-là par rapport au jeûne. On ne nous dit pas forcément de jeûner, là. Mais, alors, Jésus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Jésus par rapport au jeûne ? Quand il s'adresse à ses disciples, Jésus dit « Lorsque vous jeûnez ». Il ne dit pas « Si à tout hasard vous jeûnez ». Il dit « Lorsque vous jeûnez ». Et je pense que pour Jésus, c'était une évidence que dans la vie spirituelle, le jeûne avait une place. Déjà parce qu'il était juif, mais on voit qu'il est un réformateur assez fort du judaïsme, en tout cas de son époque. Lorsque vous jeûnez, bon, on ne va pas lire tout le texte, hein, c'est dans le sermon sur la montagne. Et puis, il y a encore ce passage. D'ailleurs, ceux qui disent le jeûne, ce n'est pas important dans la vie chrétienne, ils s'appuient là-dessus. Ah, moi, je suis désolé, je suis allé jusqu'au bout. Hein. Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit, les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Alors, les chrétiens qui pensent que ce n'est pas important la question du jeûne, ils s'appuient sur ce passage. Mais moi, je vais jusqu'au bout. Hein. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Mais je ne suis pas là pour vous faire la leçon de rien du tout. Hein. Hein, j'ai passé l'essentiel de ma vie chrétien en ne jeûnant pas. Et si je me suis mis à jeûner, c'est pour des raisons de santé en premier, pas pour des raisons spirituelles. Mais... la question du jeûne m'a amené à aller sur le terrain spirituel. Voilà. Je dis, pour ma santé, c'est bon de jeûner, je vais vous expliquer comment je le fais. Et du coup, je me dis, mais sur le plan spirituel, alors, il y a aussi ça dans la Bible. Voilà. On pourrait dire d'une pierre deux coups. Alors, c'est très important, hein, la liberté des enfants de Dieu. Il n'y a aucun dogme dans ce que je vous dis. Rien. Il n'y a pas de dogme. Ne pas être source de scandale, ne pas juger les autres. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Voilà. Et moi, un chrétien qui ne jeûne pas, ça ne me pose aucun problème. Vous voyez ? Je vous parle de mon expérience, de mon témoignage, c'est tout. Alors, j'aime beaucoup le témoignage de Anne. J'ai les larmes aux yeux quand je pense à cette femme. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle fait partie de ceux qui attendaient le Messie, comme Siméon. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà. Ça aussi, c'est un témoignage pour moi qui me fait du bien. Alors, comment jeûner ? On peut faire un jeûne total, un jeûne partiel, court, long, fréquent, occasionnel. Il y a 36 000 manières de jeûner. Moi, je vais vous dire laquelle qui me convient le mieux, mais chacun peut choisir celle qu'il veut. J'ai opté pour un jeûne assez court. Donc, c'est pour ça que je me fais très, très modeste. Hein. Très modeste. Une à deux fois par semaine, non consécutif, voire plus. Évidemment, pas un jeûne total. On boit de l'eau quand on jeûne. Vous allez voir, c'est extrêmement modeste. Alors, d'abord, les bienfaits du jeûne. Ça, c'est sur le plan, on a vu sur le plan spirituel, hein. Mais sur le plan de la santé, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives pour nous dans le jeûne. Essayez de gérer un peu notre envie de manger. Hein. Vous voyez, là, j'ai une petite rondeur là, qui est apparue avec l'âge. Avant, je n'en avais pas. Je me désespère de pouvoir l'enlever, mais bon. Diminuer l'inflammation. On met un peu au repos tout ce qu'on ingère qui fait du mal à notre corps, hein, quand on mange. Améliorer les défenses immunitaires, tout ça, il y a plein d'études scientifiques hein, qui prouvent tout ça. Hein. Réduire les risques d'allergie, de rhumatisme. Faire du bien au microbiote aussi, ces fameux microbes avec qui nous vivons. Mais, pas pour les femmes enceintes, pas pour les malades sous traitement, hein. Pas les enfants, pas les adolescents. Ça, c'est de la prévention pour un adulte en bonne santé. On va dire. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est de l'hygiène de vie, c'est pas de la médecine. Hein. Quelqu'un qui est malade, je n'ai rien à dire, je ne suis pas médecin. Alors voilà comment je jeûne. J'ai opté pour le jeûne de 16 heures. C'est-à-dire que pendant 16 heures, je ne mange pas. Et je profite du temps nocturne dans ces 16 heures-là. Donc vous voyez que c'est très modeste. Hein. Il n'y a pas d'exploit extraordinaire. Alors, on peut jeûner soit en ne mangeant pas le matin. Je fais ça une fois par semaine, généralement le dimanche, mais cette semaine j'ai fait le samedi pour être avec Abdelak et sa famille. Hein, j'ai mangé ce matin, mais c'était hier matin que je n'ai pas mangé. Mais généralement c'est le dimanche matin, je ne mange pas. Et Christine, ma compagne, nous ne mangeons pas le dimanche matin, donc nous avons un repos de 16 heures, un jeûne de 16 heures. Voilà. Et puis j'en ai rajouté un le soir. Là c'est un peu plus compliqué pour moi. Quand je rentre du travail, oui, non, ce soir, tu ne manges pas, c'est le jeudi soir. En général, je ne mange pas, sauf exception, je ne mange pas le jeudi soir. Et j'envisage de rajouter un troisième dans la semaine. Je l'envisage. Je n'ai pas encore fait le pas. Et ces deux jeûnes, donc de 16 heures dans la semaine, je le fais depuis maintenant 3 ans. Et alors, ça tombe bien, le jeudi, nous avons notre pause spirituelle. Et le dimanche matin, il y a le culte. Alors, voilà, je suis en jeûne avec une dimension spirituelle, voilà, une consécration. Quand on jeûne, on s'oublie soi-même et on se consacre à Dieu davantage. Voilà, nous allons terminer avec Chagall. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Manger sainement, C'est une manière d'honorer le Créateur et de respecter sa création et les lois de la biologie qu'il a conçues. Tu aimeras ton prochain. Manger sainement contribue à réduire l'impact de notre mode de vie sur la planète. Mais ça, c'est un grand sujet hein, du moment. Hein. C'est-à-dire que si nous mangions comme Dieu nous a prévu, notre impact négatif sur la planète serait moindre. Alors je peux vous le dire, je suis ingénieur en agriculture. Hein, je suis beaucoup avec des élèves producteurs de lait, producteurs de viande, producteurs de céréales aussi. Oui, plus il y aura de consommateurs de viande et de produits laitiers sur la planète, plus nous serons amenés à pomper la planète. Voilà, et donc, bien qu'étant dans l'agriculture, je prône une diminution de la consommation de viande et de produits laitiers. Parce que ça, c'est l'agriculture qui a le plus d'impact négatif sur la planète. Sachant que les problèmes environnementaux touchent prioritairement les populations vivant dans l'hémisphère sud, majoritairement les plus pauvres. Et tu aimeras comme toi-même. Voilà, manger sainement, ça contribue à notre bonne santé, à notre bien-être. Et puis quand on a la forme, eh bien on est plus disponible pour servir Dieu et notre prochain. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Notre corps, c'est très important. Et c'est toi qui as créé mes reins, Seigneur, tu m'abritais dans le sein maternel, je confesse que je suis une vraie merveille, tes œuvres sont prodigieuses, oui je le reconnais, alors prenons soin de cette merveille. Merci.